à bâton rompu.
À bâton rompu.
À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Je reçois aujourd'hui Bastien Tout-le-Monde. Bastien Tout-le-Monde, bonjour.
Bonjour Bruno Cyr.
Bastien Tout-le-Monde, vous êtes depuis quelques mois, je ne sais pas combien de temps d'ailleurs. Mais...
Depuis un an maintenant.
Vous êtes président du réseau EDC dans la région Midi-Pyrénées, Occitanie.
Midi-Pyrénées.
EDC, je rappelle pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est entrepreneur et dirigeant chrétien. Alors c'est une déjà vieille association puisqu'elle a été créée en 1926. On va bientôt fêter le centenaire de cette association de dirigeants chrétiens qui veulent aligner leur foi catholique avec ou chrétienne avec leur pratique professionnelle de dirigeant d'entreprise. Et donc il y a tout un réseau en France. Bastien Tout-le-Monde donc préside le réseau Midi-Pyrénées. Il y a 79 membres, je crois, et regroupés en groupes de travail. Donc c'est une association qui se réunit très régulièrement avec un aumônier.
Tout à fait, un conseiller spirituel.
Un conseiller spirituel qu'on peut nommer.
Qui est le frère Tanguy-Marie Pouliquin, de la communauté des Béatitudes.
Voilà, que nous connaissons bien ici à Radio Présence, qui vient régulièrement. Bastien Tout-le-Monde, vous êtes marié, vous avez 5 enfants, ce qui est assez remarquable dans le contexte de notre époque. Vous êtes rattaché à la paroisse Saint-Exupère, mais vous êtes en même temps un nouveau Toulousain, puisque vous me disiez qu'il n'y a que 2 ou 3 ans que vous êtes arrivé à Toulouse. Donc vous n'avez pas encore tous les réseaux d'un vieux briscard de la région. Et vous avez quand même accepté de prendre cette responsabilité. Alors, par ailleurs, votre activité, vous êtes directeur régional d'Enedis. Vous avez fait toute votre carrière jusqu'à maintenant à Enedis. Et donc, ça nous amènera un peu aussi à parler des questions d'énergie. Mais je voudrais surtout qu'on parle de votre activité de dirigeant chrétien. Et ma première question sera un peu... Comment est-ce qu'un chef d'entreprise peut diriger dans un monde très agressif sur le plan de la concurrence, sur le plan de l'exigence de rentabilité, peut arriver à diriger son entreprise en étant aligné avec la doctrine sociale de l'Église? Comment vous faites cette quadrature du cercle?
Alors c'est une excellente question, mais finalement c'est une question à laquelle il est beaucoup plus facile de répondre qu'on ne le pense. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que les fondamentaux, les préceptes de la doctrine sociale de l'Église sont depuis quelques années, depuis quelques temps, de plus en plus naturellement acceptés comme étant des fondamentaux de management sain et moderne. Et ça, c'est un vrai plaisir de le constater. Aujourd'hui, je trouve qu'on peut vivre sa foi dans l'entreprise sans la nommer. Exigence de laïcité oblige, en particulier dans une entreprise de service public comme celle que je sers. Mais ces principes sont finalement des principes de management qui sont appelés de leur vœu par les entreprises. Et finalement, on peut appliquer la doctrine sociale de l'Église en entreprise sans le dire et de façon très efficace.
Ouais,
et ça, c'est une bonne nouvelle.
En d'autres termes, vous n'êtes pas là pour faire du prosélytisme.
On ne peut pas.
C'est pas ça ne serait pas accepté et ce n'est sûrement pas souhaitable. Il faut respecter le principe de laïcité, surtout dans des entreprises à caractère public comme la vôtre. Mais en revanche, rien n'empêche au quotidien de mettre en application sa foi catholique, c'est ça
que vous dites. Tout à fait. Et plus que rien n'empêche, ce que j'essaie d'exprimer, c'est que les principes auxquels on croit sont des principes qui sont les attendus du management dans nos entreprises. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a, une dizaine d'années, à une époque où le mode de fonctionnement de l'entreprise était encore assez classique, dans un mode... pyramidal, descendant, ce qu'on appelle le command-control, convaincu que c'était sans doute pas ce qui était bon pour les salariés et pour la société, j'avais travaillé avec quelques collègues à proposer au groupe EDF, pour le coup à l'époque, une approche managériale différente basée sur des mots qu'on connaît bien dans l'Église, basée sur la subsidiarité, basée sur la confiance et la responsabilité. L'idée qui avait été poussée à l'époque, qu'on avait qualifié d'un nom, on l'appelait la démarche Opale, en référence à une référence de recherche sur le mode de fonctionnement des entreprises, Isaac Getz, l'entreprise libérée. Cette idée avait séduit, avait gagné un certain nombre de concours innovation à l'intérieur de l'entreprise, et au bout de quelques années, elle avait pris sa place dans le groupe EDF, et le nouveau référentiel managérial du groupe EDF s'est bâti sur ces fondamentaux-là, sans aucune référence, bien entendu, à quoi que ce soit de religieux.
Non, mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que le principe de subsidiarité, c'est un principe de science politique. C'est pas propre à l'Église. Même parfois, on peut même se dire qu'il n'y a pas toujours beaucoup de subsidiarité à l'intérieur même de l'Église. Mais c'est un autre débat. Mais le principe de subsidiarité est un principe de décentralisation. À partir du moment où on a transféré la compétence, où on a transféré l'information, on se dit, si je peux prendre la décision à un niveau N, c'est pas la peine de demander au N plus 1 de le faire à sa place. Et c'est ça que vous avez mis en place.
Tout à fait.
C'est un partage.
Et même plus que ce n'est pas la peine,
c'est préférable
de ne pas demander au N plus 1 de le faire.
Donc c'est l'idée de confiance.
Ouais.
C'est l'idée de... C'est un peu l'idée de fraternité derrière, c'est ça que vous me dites. Ouais.
Alors, moi j'aime bien dire confiance et responsabilité. Quand on est en entreprise, enfin du moins de la façon dont je le vis, on cherche deux choses. On cherche, en tant qu'entreprise, à créer de la performance, et il ne faut pas s'en cacher. Mais on cherche...
Sinon, ça n'a pas de sens.
On cherche aussi à ce que l'entreprise soit un lieu d'épanouissement pour les gens qui y travaillent. Alors, au début, je disais plaisir, mais c'est un mot qui choque un peu trop l'entreprise, donc je dis épanouissement plutôt. Quand on regarde les deux mots l'un à côté de l'autre, on peut assez facilement faire de l'entreprise un lieu d'épanouissement sans charger la performance. C'est le comède. On peut aussi relativement facilement faire une entreprise performante, mais qui ne soit pas un lieu d'épanouissement des entreprises, des salariés, c'est l'esclavagisme. Ce qui est délicat, c'est de réussir à faire les deux en même temps. Et la conviction qu'on a développée, à la fois en s'appuyant sur des recherches, mais sur des expériences réussies qui ont eu lieu dans un certain nombre d'entreprises, c'est que la meilleure façon d'y arriver, c'est de développer ce fameux binôme de confiance et de responsabilité. Alors c'est un binôme qui est difficile, c'est un binôme qui est exigeant, parce que tout le monde n'a pas forcément envie de se retrouver en responsabilité.
Ouais.
Et je pense que les managers doivent faire attention à ne pas penser que leur état d'esprit de manager est celui qui est le fait le conducteur de tous les salariés de l'entreprise. Ce n'est pas le cas.
Oui, ça, je crois que c'est une constante que l'on retrouve dans toutes les organisations. Donner des responsabilités à quelqu'un, c'est aussi développer du stress chez lui, inévitablement, parce que responsable, ça veut dire choisir, et choisir, on n'est jamais sûr de faire le bon choix, d'avoir tout bien compris, d'avoir tout bien pesé. Donc il y a du stress qui se crée. Et c'est vrai, dans beaucoup d'organisations, il y a des gens, soit qui ne veulent pas, soit qui ne veulent plus de ce stress. Et c'est plus confortable, au fond, d'exécuter quelque part, tout simplement, et en s'exonérant de la responsabilité de la décision. Donc c'est, je comprends ce défi, surtout dans des entreprises très importantes comme Enedis, qui ont une culture quand même de fonction publique qui reste assez marquée là-dedans, où c'est pas la loi dans la fonction publique. Et puis, il y a aussi la versus syndicale, où les syndicats aiment bien chacun son boulot. Hein, vous êtes les patrons, vous décidez, nous on exécute, et ensuite vous pourrez pas dire que c'est de notre faute si ça marche pas. Donc comment vous gérez toutes ces contradictions ?
Alors, du mieux possible, avec beaucoup d'humilité. Je pense que pour un manager, et un manager en particulier qui cherche à développer cette approche-là, qui est, je pense, beaucoup plus puissante, mais plus compliquée à mettre en œuvre qu'un management autoritaire et directif, il est en permanence question de trouver les justes positions et les justes équilibres. Vous l'avez un petit peu évoqué. Si on a la volonté de confier à nos collaborateurs le maximum de responsabilité et de confiance qui va avec, cette responsabilité, cette confiance, elle s'arrête à un niveau qui dépend de chacun des collaborateurs. Certains vont pouvoir et vouloir en prendre beaucoup. D'autres ne vont pas pouvoir ou ne pas vouloir en prendre beaucoup, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et le manager, il doit savoir jauger ce qui est bon pour chacun, et c'est différent pour l'un et pour son voisin. C'est différent pour une personne sur un sujet ou sur un autre sujet. Ça peut aussi être différent aujourd'hui que ça n'était dans 6 mois ou que ça sera dans 1 an parce que le contexte est différent. Et tout l'art du management repose beaucoup, selon moi, sur la capacité à déceler pour chacun des collaborateurs, dans chacun des temps, dans chacun des contextes, quel est l'optimum de confiance et de responsabilité à lui donner, le maximum, mais pas trop. Et là, permettez-moi, si vous voulez bien, de faire le lien avec le mouvement que je présente ici, qui sont les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Vous l'avez dit, c'est un mouvement dans lequel on vit en équipe d'une douzaine de personnes qui se retrouvent une fois par mois. Et ces rencontres sont entre autres l'occasion de partager avec nos pairs qui vivent les mêmes ambitions, qui vivent les mêmes difficultés, les sujets qu'on a à traiter, les doutes qu'on peut avoir, et de partager ensemble pour grandir dans nos réflexions personnelles.
Alors, très concrètement, pour nos auditeurs, comment fonctionne précisément cette association des entrepreneurs et dirigeants chrétiens que vous animez? Quel est votre rôle, vous, en tant que président, et comment ça fonctionne? Il y a une organisation décentralisée, parisienne, locale, des groupes de travail. Comment ça marche? Est-ce que vous pouvez...
Alors, c'est une association qui a une double dimension, à la fois nationale et locale. Alors c'est assez amusant parce qu'à Enedis, donc l'entreprise dans laquelle je travaille, qui gère le réseau public de distribution d'électricité sur le territoire national, on a aussi une dimension, double dimension nationale et locale. Ouais. Et ce qui est intéressant dans ces structures-là, c'est qu'elles cherchent à trouver l'optimal ou le meilleur, tirer le meilleur d'une dimension nationale qui permet d'avoir une grosse force de frappe, qui permet de mutualiser des moyens, et du local, qui permet d'optimiser la proximité, en particulier la proximité entre individus, qui est indispensable. Mmh. Alors, comment on le vit aux EDC? C'est une structure nationale. Mmh. C'est plus de 3000 membres. C'est de grosses capacités de recherche, de rédaction, de support, de réflexion, de support, de travail, d'organisation d'événements mobilisateurs qui donnent de l'énergie. Typiquement, une fois tous les 2 ans, on rassemble plus de 2000 patrons sur un même lieu pendant 3 jours pour travailler ensemble sur ces sujets-là. Et c'est une énergie formidable. C'était l'année dernière au Havre, ça sera l'année prochaine à Bordeaux. Voilà. La dimension nationale d'un mouvement comme celui-là permet de faire ça. Mais cette dimension nationale n'est rien sans le fondamental qu'est la vie du mouvement, qui est un fondamental de proximité, de vie d'équipe. Le précédent président parlait d'ecclésioles, des petites églises, ces équipes d'une douzaine de personnes qui se retrouvent donc une fois par mois.
Il y en a 8, je crois, en Midi-Pyrénées.
On en a 8 en région Midi-Pyrénées, dont 5 à Toulouse. Et c'est un mouvement qui est en croissance. On a régulièrement de nouvelles personnes qui s'approche pour venir nous dire bah, « j'ai un besoin, est-ce qu'on peut regarder ensemble si ce besoin peut être satisfait chez vous ?» Ces équipes, elles se retrouvent une fois par mois, chez les uns et chez les autres, voire dans les entreprises des uns et des autres, autour de trois temps, de trois finalités. Il y a d'abord un temps de foi. On commence et on termine toujours par un temps de prière. On se place sous le regard du Seigneur pour commencer, on le remercie à la fin. Il y a un temps de partage en fraternité. Ce que je disais tout à l'heure, c'est l'occasion pour les uns et les autres de dire, voilà, je peux exprimer ici une difficulté que je vis, un besoin que j'ai, que je peux dire là avec mes frères et que je ne peux pas toujours exprimer dans mon environnement professionnel, en tout cas pas sous le regard du Seigneur, et que je ne peux pas toujours exprimer dans mon cercle familial non plus, parce que c'est pas toujours le lieu adapté pour le faire. Donc c'est un lieu qui permet ça. Et le troisième temps, le troisième objectif, c'est un temps d'enrichissement, c'est un temps de développement personnel, où on va, sur chacune des réunions, développer un thème particulier de la pensée sociale chrétienne pour continuer à grandir ensemble.
D'accord. Et tout ça donne lieu donc à des synthèses à certains moments qui donnent ces rapports qui sont diffusés dans tout le réseau.
Alors, oui et non. Il y a un certain nombre d'années, on faisait des comptes rendus de nos réunions. On s'est rendu compte que ça marchait pas bien, que c'était lourd à faire et que finalement on n'en faisait pas grand chose. Donc on a arrêté. La capitalisation de toute la matière, de toute la richesse de ces temps d'échange se fait plutôt au travers des commissions thématiques qui sont montées par le mouvement et qui produisent, en s'appuyant sur l'expérience des membres, des livrets thématiques qui vont aller explorer en profondeur l'un ou l'autre des aspects de la pensée sociale chrétienne et de fait permettre aux autres équipes de travailler en équipe les sujets avec la matière biblique, avec le retour d'expérience, des bonnes questions à se poser et avec des exercices à faire ensemble.
Et là-dessus, sur ces documents, on peut, parce que j'imagine qu'il y a une grande richesse dans ces documents, y compris d'un point de vue enseignement, on pourrait au fond les partager. Est-ce que c'est accessible au public?
Alors, ce sont des documents qu'on réserve à l'usage de nos membres. Alors après, il n'est pas interdit d'en parler avec d'autres, mais qui n'ont pas vocation à être commercialisés.
À être diffusés, oui.
Au-delà du mouvement. Ce qui serait, je pense, un peu délicat, et puis c'est des documents qui nécessitent une certaine appropriation et qui s'intègrent dans le cadre de la vie du mouvement. Voilà, j'ai jamais entendu parler d'une option de commercialisation. Je pense que ce serait pas forcément...
Je pensais pas commercialisation, mais support... vous savez ce qu'on appelle les open source, c'est-à-dire que les gens pourraient venir sur votre site et récupérer tel ou tel document.
Je suis pas légitime à porter un avis là-dessus. Il faudrait poser la question.
Parce que c'est vrai que sans faire de prosélytisme, mais il y a là une source, une matière de réflexion de gens qui ont des responsabilités, qui traitent des problèmes de société. Et on est quand même dans une logique aujourd'hui de diffusion du savoir un peu tous azimuts. Donc bon.
Mais je prends la question.
À creuser. Il y a bientôt des assises régionales, là, ici, à Toulouse.
Tout à fait.
C'est au mois de mars. Le 11 mars.
10 et 11 mars au village de François.
D'accord.
On va réunir les membres de la région, les conjoints qui souhaitent être présents. Les enfants sont bienvenus aussi.
C'est un grand moment de partage.
Et celles et ceux qui seraient intéressés par le mouvement, qui aimeraient savoir ce qu'on fait pour soit plus nous connaître, soit éventuellement nous rejoindre après.
Et il y a toujours le père Poliquin qui vous accompagne dans ces...
Tanguy et Marie Pouliquin sera là, on aura la chance de profiter en particulier le premier soir de son enseignement qui est toujours très très précieux. On aura a priori la chance de pouvoir avoir le passage de Monseigneur de Quérimel vendredi soir. Et c'est Monseigneur Lacombe, l'évêque de Hoche, qui célébrera la messe samedi matin.
Ça dure sur un...
Ça dure 24 heures.
24 heures.
Vendredi 18h et samedi 18h, on termine par les Laudes.
Bien, très bien. Ben, écoutez, je vous souhaite une belle réussite de ces assises régionales. Alors, je voudrais, dans le temps qui nous reste, qu'on parle un petit peu d'un débat de société autour du fonctionnement des entreprises, qui est celui de la responsabilité sociale et environnementale. C'est une question qui préoccupe beaucoup la jeunesse en particulier. Je le vois, moi qui étais universitaire, ces thèmes sont très présents, de plus en plus présents dans les universités. Les étudiants se posent beaucoup de questions, remettent en question justement parfois le capitalisme dans son ensemble en disant que ça détruit trop l'environnement, que la course à la consommation. Donc vous, quelle est votre approche? Je sais que vous travaillez sur cette question indépendamment de EDC, hein, que vous avez aussi d'autres cercles dans lesquels vous réfléchissez, en particulier à la RSE, dans une boîte comme Enedis. Est-ce que vous pouvez nous dire votre approche?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Et finalement, ça a plus d'adhérence avec nos échanges sur la vie de l'Église et la pensée sociale chrétienne que ça n'en a l'apparence. Vous l'avez dit, et je crois que c'est très vrai, nous avons besoin de travailler dans un cadre qui fait sens pour nous. Alors c'est vrai pour nos générations, c'est encore plus vrai et c'est fondamental pour les générations qui suivent. On ne recrutera pas les jeunes générations, on ne recrutera pas les talents de demain si on ne les convainc pas qu'ils viennent travailler dans un cadre qui fait sens. Et un cadre qui fait sens en profondeur, c'est-à-dire qu'ils ont un détecteur à greenwashing qui est beaucoup plus perfectionné que nous, et les entreprises qui feraient semblant sans le faire vraiment, là aussi perdraient ses talents. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que la grande majorité, je pense aujourd'hui, des entreprises ont compris qu'elles ne pouvaient pas vivre leur business, vivre leur vie d'entreprise sans être un acteur des territoires, de la société dans laquelle ils sont intégrés. Et j'ai aussi la chance de présider depuis quelques mois maintenant une association d'entreprises qui s'appelle Ambition Toulouse Métropole, qui regroupe une quarantaine d'entreprises du territoire métropolitain qui ont cette conviction qu'il est nécessaire d'agir sur le territoire et qui font le choix de mutualiser leurs moyens, de se mettre ensemble pour mener des actions concrètes. On n'est pas là pour réfléchir, on est là pour agir, mener des actions concrètes au service du territoire et dans les différentes dimensions qu'on peut imaginer derrière la RSE. Alors, on a des actions autour de ce qu'on appelle le catalyseur écologique, c'est-à-dire on va identifier des startups qui cherchent à créer une activité économique autour d'un projet écologique et à leur fournir leurs premiers clients dans nos entreprises, à leur faire du feedback, à les aider à grandir. On a des actions autour de ce qu'on appelle inclusion et diversité, pour favoriser l'inclusion des personnes en situation difficile dans nos entreprises et dans leur marché du travail, pour favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap, avec par exemple un événement qu'on aime beaucoup, qu'on appelle l'Adapta Cup, qui est un tournoi de rugby fauteuil, qu'on organise avec le Stade Toulousain Rugby Handisport et qui permet de façon très très ludique de sensibiliser nos salariés aux personnes en situation de handicap et les voir avec un regard positif puisque c'est ce qu'elles sont. Ouais. Voilà, donc les entreprises sont, je pense, de plus en plus convaincues de cette nécessité.
Et là, vous dites qu'une quarantaine d'entreprises participent à ça, donc oui. Là, donc il y a une vraie prise de conscience, au fond, de ce que demande, ce qu'attendent la jeunesse de notre pays de plus en plus, hein, qui est ce souci de l'environnement et du social. Et au fond, moi, je trouve ça très rassurant, ce que vous nous dites, parce que ça montre que même si on peut avoir le sentiment que la pratique de la foi n'est peut-être plus ce qu'elle a été dans les années ou les siècles précédents, il y a une pratique par le comportement. D'ailleurs, c'est ce que disait notre pape François en disant, mais il y a des gens qui, au fond, ont complètement intégré les valeurs du Christ, hein, les enseignements du Christ, et sont plus chrétiens que des chrétiens sans le savoir. C'est ça aussi.
Et effectivement, qui les mettent en œuvre
au quotidien.
Souvent, ou parfois, on va dire parfois, de façon beaucoup plus dense que peuvent le faire un certain nombre de chrétiens. Et moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour eux, et je pense en particulier à un de mes collègues, parce qu'eux le font sans avoir la chance que nous avons d'avoir cette lumière qui nous inspire, d'avoir ces enseignements, d'avoir ces temps de ressourcement que l'Église nous propose. Eux, ils n'ont pas cette force-là, et néanmoins, ils sont super acteurs, super actifs et super efficaces.
À nous de leur donner la lumière. Bon, Bastien, tout le monde, malheureusement, le temps passe trop vite et on vous aurait encore écouté pendant de longs moments, nous raconter tout ce que vous faites et tout cet engagement que vous avez. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Bonne continuation dans votre présidence, vos diverses présidences qui montrent que vous savez concilier votre foi avec votre vie d'entreprise. Et puis, bon congrès, non, c'est pas un congrès, bon séminaire.
Assises régionales.
Bonnes assises régionales dans quelques jours pour l'EDC.
Merci beaucoup pour votre accueil.
Merci, au revoir.